vous allez voir que ce que vous avez entendu dans les prophéties correspond vraiment à la pensée de l'Esprit. Dans le prophète Amos, au chapitre 4, au verset 12, Dieu donne une exhortation des plus solennelles. Amos, chapitre 4, verset 12. Pour moi, je pense que c'est le verset biblique qui résume toute la Bible. Toute la Bible. Le verset de l'Ancien Testament qui résume toute la Bible. Dans ce chapitre, et d'ailleurs dans tous les premiers chapitres, le Seigneur parle au pluriel, à la deuxième personne du pluriel, vous, tout le temps, vous. Et lorsqu'il arrive à l'exhortation que l'on va lire, il parle au singulier pour nous indiquer que c'est une affaire personnelle. Quand il y a un changement comme ça de conjugaison, c'est parce qu'il y a une prise de conscience à avoir. Vous savez, c'est une chose que je vous dise vous, et c'est une chose que je vous dise tu. Vous êtes d'accord? Voilà, ça veut, quand je le fais, moi, c'est exactement la même chose, dans le sens où il faut que nous comprenions que c'est quelque chose de personnel. Donc, dans ce chapitre 4, Dieu parle au pluriel, et là, tout d'un coup, Amos 4, verset 12, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Vous pouvez mettre votre prénom à la place d'Israël. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » C'est un verbe actif, c'est quelque chose qui nous implique. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 35, il y a le même enseignement dit par le Seigneur Jésus lui-même. Le titre de ma prédication est celui-ci, c'est une question. « Mon âme est-elle prête ?» C'est une question que vous devez vous poser très sérieusement. « Mon âme est-elle prête ?» Vous devez en faire la question la plus sérieuse de votre vie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas s'ils sont prêts. Mais ça leur est égal. J'espère être prêt. J'espère que Dieu veut que je sois prêt. Mais des réflexions qui montrent vraiment qu'on n'a pas de piété. « Ton âme est-elle prête ?» Luc 12, 35. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. J'aimerais encore faire une autre lecture dans Luc au chapitre 21. Dans Luc au chapitre 21, il y a toutes ces prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Dans Luc 21, il y a le journal du matin, de tous les matins. Luc 21, Jésus répondit au verset 8. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, est-ce que vous pensez qu'il y a des soulèvements souvent, hein? Ne soyez pas effrayés, car il faut, je le répète, il faut que ces choses arrivent premièrement. Vous savez, il y a de l'ordre. Dieu a dit les choses de manière très ordonnée. Quand Dieu dit premièrement, c'est en premier. Mais ça ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de même qu'en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Quelqu'un me disait dernièrement, moi je vais m'expatrier aux Bahamas. Je dis, ça sert à rien. Il est dit, non mais, il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a des endroits protégés. Ce n'est pas vrai. Ça arrivera sur la surface de toute la terre. Ça ne peut pas être plus clair. C'est Jésus qui parle, n'oublions pas. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Je reviens à ma question. Votre âme, notre âme, est-elle prête? Il y a beaucoup de questions dans la prédication. Comment attendez-vous le retour du Seigneur? Dans quel état serez-vous le jour où le Seigneur fera sonner par les anges la trompette retentissante? Serez-vous comme cet homme qui avait serré une grande récolte? Il avait bien fait. Ce n'était pas un péché de serrer la récolte. Ce n'était pas un péché de prospérer. Son péché, c'est qu'il croyait que son âme lui appartenait. Son péché, c'était qu'il croyait qu'il contrôlait sa vie. Notre vie ne nous appartient pas. Et Dieu va dire, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. De toute façon, que nous nous appliquions à être prêts pour le retour du Seigneur, il va de soi que le Seigneur peut nous reprendre dans l'heure qui suit. Vous êtes d'accord avec moi? Il est hors de question même d'envisager que d'être prêt pour le retour du Seigneur. Il faut être prêt à tout instant. Jésus dénonce dans cette parabole, justement, c'est un gars qui, alors qu'il est en train de prêcher, lui demande de s'occuper de l'héritage parce que son frère n'est pas d'accord. Vous connaissez cette affaire? Le gars, vous voyez, ce sont tous ceux qui s'approchent de Jésus juste pour les affaires matérielles. Et Jésus, bien sûr, le ramène à l'évidence. Je ne suis pas établi sur la terre pour être un avocat, un juge, pour le moment, à cette époque-là. Il était là et il est là aujourd'hui par l'Esprit, par le Saint-Esprit, pour nous aider à faire en sorte que nous soyons prêts. Parce que quand Jésus viendra, beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. Vous allez me dire, mais comment vous le savez? Eh bien, parce que c'est écrit. C'est écrit dans la Bible. Si vous deviez vous comparer à quelqu'un dans la Bible, à qui vous compareriez-vous? Monsieur Gaillard, ce matin, parlait de ces rois qui ont bien commencé, mal fini. En fait, il y a tout un tas de rois. Vous avez vu dans la Bible, hein? Tous ceux qui ont bien commencé, bien fini, etc., etc. Mais si vous deviez vous comparer à quelqu'un, vous connaissez des hommes et des femmes dans la Bible, hein? Certains sont des exemples. Certains ne sont pas des exemples. Mais à qui vous compareriez-vous? C'est important, ça. Veillez sur votre âme. Jésus n'arrête pas d'insister d'une façon ou d'une autre. Il aurait pu nous enseigner sur tout un tas de choses, sur la théologie. Le Seigneur Jésus, vous avez vu, il s'applique à nous enseigner sur l'importance d'être prêt. C'est écrit dans le Deutéronome 4, verset 9, ne le cherchez pas. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Il y a des gens qui ne veillent sur leur âme que le dimanche. Ce que font certains ce matin. Peut-être que vous n'avez pas ouvert votre Bible de la semaine et que vous vous contentez du repas du dimanche matin. C'est une erreur. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas soif. On terminera avec ça tout à l'heure. Vous n'avez pas soif du Dieu vivant. C'est ma responsabilité de vous le dire. Si vous ne vous occupez de votre âme que le dimanche matin, vous allez vous mettre en porte-à-faux. Les ruses du diable finiront par vous atteindre. C'est comme ça. Si Dieu dit « veille sur ton âme tous les jours, c'est qu'il faut veiller sur son âme chaque jour de sa vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que chaque jour, il y en a un qui ne va pas se gêner pour vous lancer ses traits enflammés et essayer de vous faire tomber. Être présent, ce n'est pas aller à l'église le dimanche. Être prêt, ce n'est pas être là à l'église le dimanche. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église le dimanche, ils sont prêts à rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas connaître des textes par cœur, ce n'est pas connaître les cantiques par cœur, ce n'est pas connaître la doctrine par cœur. C'est bien, et moi je demande aux chrétiens de connaître la saine doctrine. C'est terrible lorsque dans les églises de fausses doctrines sont enseignées. On va en voir de plus en plus. Être prêt, c'est par rapport à notre âme. Ce n'est pas par rapport à l'habillement. Parce que celui qui est en costume cravate, il est plus prêt que celui qui est en jean et en t-shirt. Vous savez, nous, on a des fois des idées bizarres. C'est pas vrai? Ça s'adresse à votre âme. Pendant les vacances, en principe, je réfléchis à des sujets que je pourrais aborder. Et cette semaine, je pensais à deux ou trois sujets. Je voulais poursuivre ce que j'avais partagé avec vous lorsque je vous ai enseigné à faire attention à la façon dont nous devons nous soumettre aux autorités. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je voulais poursuivre ce sujet, mais je sentais vraiment dans mon esprit que la pensée du Seigneur, c'était de vous dire et de vous rappeler des choses que vous savez déjà, mais que certaines ne mettent pas en pratique. En préparant cette prédication, je me suis rappelé d'un témoignage que j'avais lu il y a peut-être 20 ans. C'est un pasteur qui a été muté dans une église. C'est une histoire vraie. Il a été muté dans une église, et bien sûr, il a été accueilli comme il faut être accueilli, un homme sérieux, etc. Et puis le dimanche, il prêche sur un sujet. Sujet cohérent, etc. Bon, c'est bien. Le deuxième dimanche, il reprêche exactement sur le même sujet. Les anciens, ils n'ont rien dit. Troisième dimanche, il reprêche sur le même sujet. Et ainsi de suite, jusqu'à 7 dimanches de suite. Les sept mêmes prédications, 7 fois de suite. Alors les anciens, ils ont été le voir quand même. Ils ont dit, écoutez, vous n'avez pas un autre message à apporter à l'église? Et non. Tant que vous n'obéirez pas au premier, il n'y en aura pas un deuxième. Alors c'est un truc que moi, je n'oserais pas faire, c'est sûr. Mais ça tenait debout quand même. Il faut avoir le culot de faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Par politesse, par respect, c'est quelque chose. Mais je ne juge pas ce pasteur qui peut-être Dieu a permis ça pour que nous faire réfléchir que c'est vrai, on peut entendre des choses et on peut les classer, mais on ne les dit pas. Peut-être que Dieu a permis cette affaire dans cette église une fois ponctuellement pour nous faire réfléchir. La preuve, ça nous permet ce matin de comprendre que oui, nous pouvons entendre une, deux, trois et plusieurs exhortations sur l'importance d'être prêt, classer ça comme si ça l'était, mais ne pas l'être. Et je crois qu'il faut quand même que vous fassiez attention. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, nous, l'homme, les hommes, l'être humain, nous avons la faculté d'analyser. On analyse tout, on juge de tout, on scrute tout, on est tout le temps en train d'observer ce qui en soi est une qualité. Mais en ce qui concerne le domaine spirituel, ce n'est pas à l'homme de juger la Bible. Est-ce que vous me suivez? Et nous voyons de plus en plus de chrétiens qui jugent la Bible. Voyez cette prophétie ce matin qui rappelait une allusion à ces moqueurs qui disent oui, mais la promesse, ça fait longtemps que ça dure. Le Seigneur, voyez, comme si l'homme était habilité à juger les prophéties de Dieu, les promesses de Dieu. Je crois que si l'homme a la capacité d'analyser, de juger, pas dans le sens de condamner, mais de comprendre, etc., il n'est pas habilité à juger la Bible. C'est la Bible qui doit nous juger. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas à nous de juger la Bible. C'est la parole de Dieu qui doit juger notre âme. Et ça, c'est un des grands problèmes que l'homme se retrouve souvent avec le serpent dans le jardin d'Éden. Oui, mais Dieu a dit oui, mais. Et tout ça, ça part mal quand ça commence comme ça. Vous vous rappelez du temps des juges? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On en est là aujourd'hui. Dans les églises, chacun fait ce qui lui plaît. Ça lui semblait bon. Il ne faisait pas ce qui semblait mauvais. Chacun faisait, bien sûr, ce qui lui semblait bon. Et bien sûr que ça partait certainement d'une très bonne intention. Mais ce n'est pas parce que ça nous semble bon que ça l'est. Et ça, c'est un drame. C'est la preuve que l'homme n'écoute pas Dieu, mais il écoute son propre cœur. Mes frères et sœurs, Jésus insiste. Si vous lisez les évangiles, il parle souvent, quelqu'un me disait, mais Jésus, non, c'est là pendant les vacances, au camp où j'étais à Élim. Mais Jésus, il parle de l'enfer, Mais j'ai dit, vous savez que 12 fois il est parlé de la gêne dans le Nouveau Testament, et Jésus en parle 11 fois. En fin de compte, le seul qui parle de la gêne dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et il en parle 11 fois sur 12. C'est pour vous dire combien ce sujet est sérieux. Et je vois de plus en plus, ce qui m'effraie, c'est des chrétiens qui s'imaginent que parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, tout est réglé. Et qu'ils sont sauvés, quoi que ce soit qu'ils fassent. Je discutais avec un chrétien là, il y a 15 jours, qui me disait, mais de toute façon, vous croyez dans la sécurité éternelle? J'ai dit, non, je n'y crois pas. Un serviteur de Dieu. Écoutez-moi, moi je ne crois pas dans la sécurité éternelle. Je crois qu'il faut rester fidèle chaque jour à Dieu. Chaque jour, rester attaché. Même l'apôtre Paul, qui quand même était comme une sacrée pointure, disait, je veille afin d'avoir prêché aux autres, de ne pas être désapprouvé moi-même. Voyez ? Et il faut faire attention. La Bible fourmille d'exhortations. Les vierges folles ne sont pas là pour nous le rappeler, que l'on peut attendre le maître, attendre le retour du maître et ne pas être prêt. Elles avaient tout des pentecôtistes, elles avaient tout ce qu'il fallait, mais elles n'étaient pas prêtes. Elles étaient folles parce qu'elles étaient négligentes. Oui, ce texte nous le rappelle. Les lettres aux sept églises ne nous rappellent pas que tous les chrétiens peuvent se perdre. Vous avez lu les lettres aux églises dans l'Apocalypse? Il y aura des vainqueurs. Et il y aura, j'espère, des multitudes de vainqueurs. Mais il y en a beaucoup qui se feront voler leur couronne, croyez-moi, avant. Le serviteur qui a enfoui son talent, la paresse spirituelle, est-ce qu'elle ne nous met pas en danger? Ben oui, vous lirez. C'est un des sept textes dans la Bible où il est parlé des pleurs et des grincements dedans. Et qui c'est qui parle des pleurs et des grincements dans la Bible? C'est Jésus. Cette fois, il n'y a que lui qui en parle dans sept contextes différents. Le gars qui a bâti sa maison sur le sable, vous croyez que c'est juste une histoire de Jésus pour les enfants de l'école du dimanche? Une petite histoire gentille, avec un petit chant comme on le chantait nous tout le temps presque quand on faisait le culte en famille. Vous savez, le fou sur le sable a bâti sa maison. Vous connaissez? Vous croyez que cette histoire, elle a été juste enseignée par Jésus pour amuser les enfants à l'école du dimanche? Cette histoire, elle nous a été enseignée pour nous rappeler qu'il y a des chrétiens qui sont fous et qui construisent leur vie spirituelle sur le sable de leurs idées, de leurs raisonnements, de leur doctrine à eux. On doit construire sur la parole de Jésus-Christ. C'est celui, Jésus dit, c'est pas celui qui bâtit sur le roc, c'est celui qui bâtit en écoutant la parole et en la mettant en pratique. Jésus dit, l'homme prudent, c'est celui qui entend la parole et la met en pratique. Il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus est mon rocher. Oui, mais Jésus est le rocher quand ce qu'on entend, on le met en pratique. Mes frères et sœurs, quand on voit tous les textes, le gars qui a accepté l'invitation, vous vous rappelez la parabole du festin des noces? On insiste souvent sur ceux qui se sont excusés parce qu'ils avaient acheté un terrain, l'autre il avait acheté des bœufs, l'autre il venait de se marier, mais la conclusion de cette histoire, c'est qu'un avait accepté l'invitation, vous vous rappelez, et il s'est retrouvé dans la salle des noces. Bien sûr, c'est une parabole. Il n'y a pas quelqu'un qui va se retrouver au ciel à l'enlèvement. Dieu va dire, ah, je t'ai enlevé à toi. Ah, je me suis trompé. Est-ce que ça peut arriver, ça? Bien sûr que non. Mais dans la parabole, on comprend qu'il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux la sanctification. Ils n'avaient pas revêtu l'habit de noces. Peut-être qu'il y a des gens, ça ne leur plaît pas, de revêtir Christ. Moi, je préfère me revêtir de ma religion. Vous savez, l'habit religieux, c'est ça. Il y a des gens se revêtir de Christ, se revêtir de l'œuvre de Christ, de la croix, porter sur soi l'œuvre de Christ. Ce n'est pas un très très beau vêtement. L'habit de telle ou telle religion est beaucoup plus luxueux. C'est ça que ça veut dire. Mais pour entrer dans le ciel, il ne faut pas accepter l'invitation. Il faut accepter l'invitation et les conditions qui sont la repentance et la sanctification. On le sait parce que la Bible nous parle de ceux qui sont retournés à ceux qu'ils avaient vomi. Je vais faire un jour peut-être un dépliant sur tous les textes du Nouveau Testament qui nous parlent que l'on peut perdre le salut. Je crois qu'il faudrait le faire avec beaucoup bien sûr d'amour et d'exhortation pour aider les chrétiens qui sont légers. Le résultat de cette affaire, c'est qu'à la fin des temps, les hommes, à la place d'avoir une vie répiétée, ils n'auront que l'apparence de la piété. Et cela me briserait le cœur de savoir que dans l'assemblée où je suis pasteur, beaucoup de chrétiens n'aient que l'apparence de la piété. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est important pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, d'avoir une véritable piété? Est-ce que vous recherchez la piété? C'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Paul dit à Timothée, recherche l'amour, la patience, la douceur, la piété? Est-ce que c'est écrit? Ça se recherche, c'est comme se préparer. Je répète, c'est un verbe qui montre qu'on a des efforts à faire. Exerce-toi la piété. Il y a des gens qui s'entraînent tous les jours, ils font du sport, et ils ont raison. Ils font en sorte que leur corps soit en bonne santé. Si c'est au détriment de votre vie spirituelle, ça devient bien sûr une erreur. Mais de la même manière que c'est une chose de bien entretenir son corps, c'est encore mieux d'entretenir son âme. Car si certains traitaient leur corps comme ils traitent leur âme, on pourrait mettre 500 personnes dans l'église. Vous avez compris ce que je veux dire? Recherche la justice et la piété. Dieu veut de la piété. Les hommes, eux, ils veulent un peu de croyance, mais moi je crois comme je veux. Une chrétienne qui a rétrogradé me disait il y a quelques années, moi je suis chrétienne, mais je ne veux pas devenir crétine, etc. Je lui dis, vous n'en prenez pas le chemin. Elle pensait qu'elle allait devenir trop spirituelle. Je lui dis, non, vous inquiétez pas, vous n'en prenez pas le chemin. Un mois après ou deux, elle a rétrogradé. Exerce-toi la piété, elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est l'apôtre qui dit, mais c'est une grande source de joie que la piété avec le contentement. Vous voulez de la joie, ayez de la piété. La joie ne vient pas par l'argent. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que c'est écrit. La Bible dit, Dieu dit, que la joie, elle vient par la piété. Et le contentement, j'ai jamais prêché sur le contentement. Ça vaudrait la peine de le faire. Est-ce que vous êtes content de vous trouver dans l'état où vous êtes? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez? Ou préféreriez-vous vivre en Somalie ou au Kenya en ce moment? Est-ce que, oui, c'est une source de joie que la piété et le contentement. J'ai appris à être content, disait l'apôtre, dans l'état où je me trouve. C'est une grande source de joie, il dit, que la piété et le contentement. Le culte qui est agréable à Dieu, on va le lire. Je ne lis pas beaucoup de versets ce matin, mais on va le lire. Hébreux 12, 28. Quel est le culte qui plaît à Dieu? Après tout, c'est ça qui est important. Le culte que moi j'ai envie d'avoir, le culte organisé de telle et telle manière, le culte avec tel, je ne sais pas moi, vous savez, un culte on peut l'organiser, le structurer, voilà, on va voir le culte qui plaît à Dieu. Je l'ai souvent lu ce verset, et bien parce qu'il est important. Hébreux 12, verset 28, un chapitre qui nous parle sur l'amour de Dieu et qui termine par le fait que Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons, oui, il faut le lui montrer, c'est pas théorique, ça doit être pratique, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, comment? Avec piété et avec crainte. Et la question, il faut que nous nous la posions, quelle est notre véritable piété? Alors peut-être quelqu'un dira, mais c'est quoi la définition de la piété? La définition de la piété, c'est l'amour et le respect pour les choses spirituelles. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça la définition. J'aime les choses spirituelles, je respecte les choses spirituelles. Dieu l'a dit, c'est important. J'ai du respect. Je n'arrive pas en retard au culte parce que je ne veux pas perturber le culte. Combien de gens derrière me disent, mais le premier quart d'heure, la première demi-heure, on ne peut pas suivre. Une dame me dit, qui est toujours derrière me disait, mais moi je vais venir devant. Parce qu'on ne peut pas suivre le culte à cause des gens qui arrivent en retard. Et je ne veux pas faire la leçon. Écoutez, moi je ne suis pas le donneur de leçon. Ça m'énerve ça, de devoir d'entendre des églises des donneurs de leçon. Mais quand même, la piété, c'est que je vais faire en sorte de ne pas arriver en retard parce qu'il me semble que c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est du légalisme? Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est quand même du respect. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. C'est du respect. Alors, je pourrais argumenter avec beaucoup d'éléments qui confirmeraient, mais je n'en ai pas besoin, parce que le seul mot de crainte et de respect suffisent à ce que l'on comprenne qu'on fait tout pour que ce moment, ça dure 2 heures dans la semaine, où on vient que pour louer, que pour adorer, que pour célébrer Dieu. On ne vient même pas pour prier. Bien sûr qu'on ne juge pas quelqu'un qui prie, mais quand même on vient pour adorer le Seigneur. On appelle nos cultes des cultes d'adoration. Il me semble que l'on doit tout faire pour que le cœur du Seigneur se réjouisse et tout faire, que s'il y a un pécheur, il y en a peut-être ce matin plusieurs, vous découvrez l'Évangile, eh bien vous devez savoir, même si c'est la première fois que vous entrez dans un lieu de culte, que c'est sérieux parce qu'on s'occupe de l'éternité, de votre éternité. Et que c'est mon devoir de vous aider à vous préparer à rencontrer Dieu en rencontrant Jésus-Christ. Je lisais dernièrement un témoignage d'un homme qui avait rencontré un baptiste. Un baptiste qui était rétrograde. Et il voulait l'amener dans sa dénomination. Et le gars, il était bloqué. Est-ce qu'on cherche à amener les gens dans notre dénomination? Ou est-ce qu'on veut ramener les gens au Seigneur? Vous voyez ce que je veux dire? Et sincèrement, je crois véritablement que ce que l'on doit faire, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Vous comprenez? On n'est pas là en train de dire, ah mais vous étiez dans telle dénomination, mais c'est normal que vous ayez rétrogradé, vous comprenez? Si vous venez dans la nôtre, tout ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est un élément. Je voudrais vous parler peut-être à la rentrée de l'importance de travailler au salut des âmes. Est-ce que vous êtes préoccupé par le salut des âmes? Si vous n'êtes pas préoccupé par la vôtre, ça m'étonnerait que vous soyez préoccupé par le salut des autres. Ça, c'est ma pensée. Je ne suis pas sûr d'avoir raison à 100%. Mais je crois qu'un chrétien doit être soucieux de travailler à son salut avec crainte et tremblement, mais il doit également s'occuper du salut des autres. C'est pour ça que nous voulons des réunions d'évangélisation. J'espère me tromper, mais je pense qu'avec 1 million d'habitants à Toulouse, je crois, avec le Grand Toulouse, je crois que c'est la seule église qui est ouverte le dimanche après-midi. Moi, je voudrais que toutes les églises soient ouvertes le dimanche. Vous croyez pas? Toutes les églises, de toutes les dénominations, où on prêche la parole. Bien sûr que peut-être il y a des endroits où la doctrine est un petit peu différente. Mais si on prêche que Jésus-Christ est mort et ressuscité, si on prêche que Jésus-Christ est crucifié pour le pardon de nos péchés, ça serait pas déjà une victoire que, même s'il n'y a pas une grande approbation de Dieu, au moins que tous les chrétiens et tous les pasteurs disent, mais c'est vrai, on veut évangéliser la ville de Toulouse. Comment entendront-ils parler si on n'évangélise pas? C'est quand même écrit. Il y a quand même un bon sens. Et je pense, mes frères et sœurs, que quand on se prépare à rencontrer Dieu, on n'a qu'un désir, c'est que les autres soient prêts à le rencontrer. Et si vous en souffrez, par contre, déposez cette souffrance auprès du Seigneur. Oui, la piété, c'est l'amour et le respect pour les choses spirituelles. On ne blague pas avec les choses de Dieu, pour commencer. On prend ces choses-là au sérieux, c'est sorti de la bouche de Dieu, c'est pas sorti du président de la République ou d'une personne que vous admirez sur la terre, j'en sais rien, c'est sorti de la bouche de Dieu. Alors, juste quelques éléments, je ne les développerai pas tous, mais 3 ou 4 pour vous indiquer si votre âme est prête. Il faut que vous sachiez, c'est mon devoir de vous aider. La Bible dit que les pasteurs, ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Alors, je vais vous donner 3 ou 4 éléments pour savoir si votre piété est vraie, si vous êtes prêt, car c'est quand même mon fardeau. Vous le comprenez, si Dieu m'a appelé au service, c'est pour que vous soyez tous prêts à le rencontrer. En plus, je suis pasteur, je sais que je dois édifier le troupeau du Seigneur. La Bible parle souvent de la piété, c'est un fait. Et dans le prophète Osée, au chapitre 6 et au verset 4, Dieu fait un reproche à Israël. Il dit, voilà, ta piété est comme la nuée du matin. Est-ce que vous avez déjà lu ce texte? Ta piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Voilà à quoi Dieu est obligé de comparer la pitié du peuple d'Israël pour qu'ils comprennent quelle est la teneur de leur piété. C'est Osée au chapitre 6, au verset 4. Dieu ne veut pas de cette piété. C'est une piété superficielle. C'est une fessée de façade. Il parle du matin. Vous savez la nuée. Vous avez déjà pris l'autoroute le matin de bonne heure, l'été? Vous avez vu des fois ce brouillard qu'il y a? Vous prenez la voiture à 5 heures du matin et vous avez un brouillard. Vous n'êtes pas possible, en plein été, un brouillard comme ça. Et dès que le soleil se lève, le brouillard, prut, il disparaît. Et Dieu compare la piété des croyants de l'époque à cette nuée qui, dès qu'il y a un petit peu de soleil, c'est-à-dire dès qu'il y a une toute petite épreuve, petite contrariété, prut, ça disparaît. Et vous comprenez bien que Dieu ne veut pas ce genre de piété. Comment réagissez-vous dans les épreuves? On peut avoir une piété d'apparence. Jésus a dit un jour au pasteur de l'époque, mais vous faites des prières pour l'apparence. Vous voyez? Il faisait des prières pour l'apparence. Il priait à la synagogue. Ah, les gens devaient dire, oh, qu'est-ce qu'il est bien ce pasteur. Il prie, comment il prie bien. Oh, le vocabulaire qu'il a. Oh, C'est ça la piété? Est-ce que c'est ça la pitié? Formuler de belles phrases? Mais non! Jésus leur dit, mais vous faites des prières pour l'apparence. Ça veut dire devant les gens. Mais quand vous êtes à la maison, c'est du cinéma. C'est ça qu'il a dit en français courant. C'est exactement ça. Et Dieu ne veut pas une piété qui s'évapore dès qu'il y a une petite contrariété. Il veut une piété qui résiste aux épreuves. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit dans la parabole du semeur et des terrains. Il dit, il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. Vous avez vu, Jésus a dit, on s'est moqué de moi, on se moquera de vous. On ne s'est jamais moqué de vous parce que vous étiez chrétien? On ne s'est jamais moqué de vous? Quand on est chrétien, on se moque de nous. Au travail, t'étais où hier? J'étais à l'église. T'es, regardez le curé. On ne vous l'a jamais fait ça? Heureux serez-vous. Il y a des gens, ah c'est ça? Moi, j'ai mon propre frère. On s'est moqué de lui 8 jours après son baptême. Il a arrêté d'aller à l'église. Il a dit, moi, je ne supporterai pas qu'on se moque de moi toute ma vie au travail. Il a rétrogradé. Il fait partie de cette catégorie de personnes qui ont cru pour un temps. Je prie tous les jours pour lui et je crois que Dieu ramènera nos rétrogrades. Mais mes frères et sœurs, c'est cette piété de façade. Pourquoi Jésus ne veut pas une piété de façade? Parce que la piété de façade, elle ne tient pas. Ça ne tient pas quand il y a une épreuve. Et ça, c'est un des signes de la fin. À cause de l'apparence de la piété, il rajoute ailleurs, ils abandonneront la foi. Ils n'abandonneront pas l'Église. Ils abandonneront la foi. On peut rester dans une Église et avoir abandonné Dieu. La vraie piété, Dieu ne veut pas de la croyance. Les gens, ils se contentent de la croyance. On le voit, ça. Ah, oh, c'est un chrétien. Ah, oh, c'est un chrétien. Il a fait le signe de croix avant de rentrer sur un terrain. Ça doit être un chrétien. Oui, bien sûr, en plus. C'est la superstition, bien sûr. Il y a des problèmes. Il y a de l'adversité, il y a des épreuves, il y a des moments durs dans la vie, c'est vrai. Il y a des moments d'angoisse. Je lisais cette semaine justement le témoignage de Spurgeon qui a été appelé le prince des prédicateurs. Il dit, j'ai traversé une très grande dépression. Il a fallu qu'il arrête 6 mois son ministère, c'est quelque chose d'impressionnant. On a tous des épreuves. Mais mes frères et sœurs, épreuve ou pas, bénédiction ou pas, Dieu veut que nous ayons une vraie piété. Vous êtes bénis? En ce moment, Dieu pourvoit. Ayez une véritable piété. Ce n'est pas parce qu'on est béni qu'il faut se relâcher aussi. Il faut s'entretenir des choses spirituelles. Quelqu'un, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est toujours en train de remettre en question les vérités de la Bible n'a pas de vraie piété. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est toujours en train d'ajouter, de retrancher, vous savez, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu n'est pas à considérer comme foi. Est-ce que c'est clair? À partir du moment où quelque chose n'est pas biblique, même si c'est très religieux, vous ne pouvez pas le considérer comme étant foi. Ce n'est pas possible. De la même manière qu'il ne faut rien lever et il ne faut rien retrancher. Une virée piété ne peut pas exister si on commence à partir dans tous les sens. Donc, ceci. Deuxièmement, quelqu'un qui est prêt, c'est quelqu'un qui a des racines. Dans Osée, regardez au chapitre 9. Au chapitre 9, Jésus le reprend de toute façon dans la parabole du semeur et des terrains. Dans Osée, au chapitre 9, au verset 16, il continue, il n'y a pas que la piété. En plus, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de communion. Osée, chapitre 9, verset 16, Éphraïm est frappé, qui représente bien sûr le peuple d'Israël, sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits. On peut aller d'ailleurs, tiens, dans la parabole de Matthieu 13. Jésus le redit, c'est différent. Matthieu 13, il le redit différemment. Allez, c'est bien de le lire. Ça prouve que le cœur de l'homme est toujours le même. Ou il cherche Dieu, ou il fait semblant. Matthieu chapitre 13, alors, voyez, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt. Comment il la reçoit? On peut se dire, waouh, ça va marcher, il la reçoit avec joie, c'est gagné. Non? Quand on reçoit avec joie, est-ce que vous recevez avec joie la parole de Dieu? Vous n'avez pas tous répondu. Je veux savoir, je suis votre pasteur, je veux savoir. Est-ce que vous recevez avec joie? Mais ce n'est pas parce qu'on reçoit la parole avec joie que l'affaire est réglée. C'est bien précisé. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Voyez ? Et il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il n'y a pas de racine. Vous voyez, c'est dit différemment que dans le prophète Osée. Sa racine est devenue sèche. Là, il y a des pierres. Alors voilà, il y a des pierres. Alors la racine ne peut pas descendre. La racine, c'est simple. Bon, quand on étudie, c'est simple. C'est ce qui ne se voit pas. Les épines, ça se voit. Vous voyez, quand il parle après au verset 22, on peut l'expliquer. Celui qui a reçu la semence, entend la semence. En qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole, la rendent infructueuse. Vous voyez, il parle de celui qui a reçu la semence parmi les épines. Les épines, dans un champ, ça se voit. Non ? Est-ce que vous le voyez, le chien d'angle, lorsqu'il est dans le jardin, que ça vous ennuie d'ailleurs ? Hein ? Vous les voyez, les épines ? Les épines, ça se voit. Quelqu'un qui aime l'argent, par exemple, ça se voit. Vous parlez avec lui, au bout d'un moment, on finit par s'en rendre compte. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous voyez, les soucis, il y a des choses qui se voient, vous parlez avec les gens, mais il y a des choses qui ne se voient pas. Ce sont les racines. Vous y pensez aux racines de votre cerisier ? Vous y pensez à le nourrir au mois de décembre pour qu'il porte davantage de fruits ? On n'y pense pas souvent aux racines. Ta racine est devenue sèche. Il n'y a pas de fruits. Quelqu'un qui a une véritable piété, il se préoccupe d'enraciner sa communion avec Dieu. Ça ne se voit pas. C'est notre culte personnel. Et sérieusement, mes frères et sœurs, je vous pose la question, je nous pose la question. Où en sommes-nous de notre culte personnel ? Est-ce que pour vous, c'est un plaisir de vous enraciner ? C'est ça la profondeur. La profondeur, elle vient, ce sont des choses qu'on ne voit pas parce que Dieu permet qu'on ait une vie ensemble, communautaire. Mais Dieu veut qu'on ait une vie seul, tout seul avec lui, dans son bureau, dans sa chambre, dans le lieu secret. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites de ce moment ? Vous avez vu le danger de ne pas avoir de racines, de ne pas avoir de communion réelle avec le Seigneur. Et quand la chaleur va venir, eh bien, s'il n'y a que des racines superficielles, ben, il n'y a pas d'eau. Vous avez vu les arbres au bord du canal du Midi, ils veulent les arracher parce qu'il y a une maladie, mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de sécher. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les racines dans l'eau. Où sont nos racines spirituelles ? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Bien sûr, quand vous discutez avec quelqu'un au bout d'un moment, là aussi, vous voyez s'il y a des racines. Vous le voyez dans sa teneur, dans sa vraie piété. Quelqu'un qui est grossier, qui est vulgaire, quelqu'un qui est léger. On voit bien que les racines ne sont pas profondes. Mais quelqu'un qui est sérieux, qui se prend pas au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui sont sérieux à l'église et qui ne le sont pas au boulot. C'est pas vrai ? Et je crois véritablement que quelqu'un qui a une vraie piété, quelqu'un qui est prêt, il a des racines. Et Dieu dit, ta racine est devenue sèche. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Parce que la chaleur viendra. Oui, les racines, c'est la communion avec le Seigneur. À l'église, je prie. À la maison, je ne prie pas. Mes racines sont superficielles. Et il faut que j'approfondisse. Faute de racines. Faute de racines. Faute de communion. Faute de dialogue avec le Seigneur. C'est important de chercher le Seigneur. Ça rassure pas quand on va dans un culte, qu'on entend deux, trois prophéties qui corroborent la prédication de la parole de Dieu. Ça peut être différent, en plus, c'est pas pour ça qu'on n'est pas inspiré. Il peut y avoir trois prédications totalement différentes de l'enseignement, mais parce que ça répond à d'autres besoins. Mais quand même, on voit bien que le Saint-Esprit est uni et qu'il veut que nous comprenions ces choses, en tous les cas, ce matin. Normalement, quand on souffre de la chaleur, un arbre qui souffre de la chaleur, qu'est-ce qu'il fait ? Madame de l'arbre, qu'est-ce qu'il fait un arbre ? Il perd ses fruits, mais qu'est-ce qu'il fait naturellement ? Mais les racines, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont chercher en profondeur. Elles plongent, exactement. Quand un arbre, il le fait naturellement, parce que bien sûr, Dieu l'a créé, tout ce que Dieu a créé est bien sûr. Quand il y a de la chaleur, les racines vont en profondeur. Il va chercher la fraîcheur. Un arbre le fait. Et nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables de le faire à cause justement de notre libre arbitre. Bien sûr que l'arbre, il ne choisit pas, il ne se gratte pas le feuillage en se disant, tiens, qu'est-ce que je fais ? Mais nous avons le pouvoir de choisir. On devrait dire, mais je sens bien que la sécheresse vient. Les prophéties de Jésus, ça veut dire vous aurez des tribulations. Il va se passer ceci, mais approfondissez votre communion avec moi. Approfondissez-la et vous aurez du fruit. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas sur le banc des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas. Il porte du fruit en sa saison. Vous le connaissez, ça c'est le comportement du juste. Et après il parle du méchant qui est fauché comme la paille. Le juste, il est sérieux avec Dieu. Il dit ce qui est prêché ce matin, c'est important. Ça ne sort pas de la bouche du pasteur de l'église. Je sais que ça sort de la bouche de Dieu. Ce qui est dit, ça vient de Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vient de la parole de Dieu. Un chrétien qui a une vraie piété, un chrétien qui est prêt, il a des racines. Et moi, je vous le dis devant Dieu, car je vous l'ai souvent dit, je rendrai compte à Dieu pour cette prédication. Si vous ne vous enracinez pas dans la communion avec Dieu, quand le vent soufflera, vous serez arrachés. Et vous ne pourrez pas critiquer le pasteur ou le frère ou le conjoint. C'est la faute à mon mari, c'est la faute à mon église, à mon pasteur qui n'est pas spirituel. Écoutez, on a tous la même Bible. C'est vrai qu'un pasteur qui n'est pas sérieux va avoir énormément d'impact sur la piété de l'église. Mais de toute manière, quand quelqu'un veut être pieux, Dieu le garde. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous la même Bible, mes frères et sœurs. Un chrétien qui est prêt, c'est un chrétien qui fait le choix d'être ferme. Vous connaissez Éphésiens, on va juste lire un peu Éphésiens chapitre 6. Vous connaissez ce texte? C'est la conclusion de l'épître aux Éphésiens, qui est toute une épître sur le corps de Christ. Et il y a les trois derniers chapitres sont des exhortations sur notre comportement. Et il termine donc avec l'armure. Et il explique bien ceci. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Ce sont des instructions. Vous vous rappelez ce que je vous ai souvent prêché? Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur dit que pour tenir ferme, pour pouvoir tout surmonter, il faut faire ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'en profite pour vous dire que quand vous priez, vous luttez contre les esprits méchants. Ce n'est pas la peine de dire « je lis les ténèbres ». Quand vous priez, les ténèbres sont liées. Enfin, ça serait une autre exhortation. C'est pourquoi, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans... » Eh ouais, y a pas que des bons jours. « Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ce texte est catégorique. Il faut tenir ferme. C'est une instruction. Tenir ferme, c'est un choix. Je fais le choix d'être ferme dans mon foyer par rapport aux épreuves que je traverse. Je tiendrai ferme. Dieu m'a donné une épouse. Je tiendrai ferme. Dieu m'a donné un travail. Je tiendrai ferme. Voilà, c'est un choix. Il y a des gens qui sont faibles parce qu'en fin de compte, ils se relâchent même. Vous croyez qu'il y a des gens meilleurs que d'autres? Est-ce qu'il y a des gens meilleurs que d'autres? Il y a des gens qui font des choix différents. C'est un choix. Qu'est-ce que Dieu dit? De tenir ferme? Eh bien, je tiendrai ferme. C'est David qui dit dans le psaume 17, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers ». Ailleurs, il est dit du peuple d'Israël, leur cœur, verset psaume 78, « Leur cœur n'était pas ferme envers lui ». Dans le psaume 112, il est parlé du juste, « Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel ». Ésaïe 26, 3, « Paix à celui qui est ferme dans ses sentiments ». 1 Corinthiens 15, on peut le lire celui-ci, 1 Corinthiens 15, 58. Que de textes sur l'exhortation à être ferme, à prendre la décision, Dieu l'a dit, je le crois, Dieu l'a dit, je le fais. C'est ça être ferme, c'est le contraire de ce que Jacques dit quand il dit « Celui qui doute, il ne recevra rien de la part du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, un jour il croit, le lendemain il doute, un jour il a envie, un jour il n'a pas envie ». Il a pris cette habitude. Alors ça, c'est l'habitude de la légèreté, c'est l'habitude de la faiblesse. Mais voilà, il y a aussi d'autres habitudes. 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » Voilà, je choisis d'être ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes. Dieu l'a dit, je le fais. C'est ça la fermeté. Dieu me le demande, je m'y applique. Dieu me demande de m'exercer à la piété, eh bien je vais m'en tenir. Comme quand quelqu'un, vous savez, est déterminé. Je vous ai raconté il y a quelques années le témoignage d'une de mes sœurs. Je l'ai toujours entendue, elle était un petit peu forte à l'adolescence. Et pendant 3-4 ans, tous les soirs, avant d'aller au lit, elle disait « Demain, je commence le régime ». Tous les soirs. Alors nous, on se regardait, bon, on ne disait rien. Tous les soirs. Tous les soirs. 3-4 ans, tous les soirs, demain je commence. Et un jour, elle a dit, demain je commence. Elle l'a fait. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu l'as fait? Eh bien, parce qu'avant, c'était un désir, mais maintenant, je suis déterminé. C'est exactement ce que la Bible dit. C'était un désir, et maintenant, je suis déterminé. Et elle l'a fait, et elle est devenue mince. Pourquoi? Parce qu'elle avait décidé. C'est un principe biblique. Dieu nous a donné le libre arbitre. Si vous voulez aller en enfer, bon, pour ça, il n'y a rien à faire, c'est vrai. Mais quand on veut faire les choses, on se décide. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Voilà. Violents envers vous-même, naturellement. Ouais. Soyez ferme, tenir ferme, résister au diable avec une foi ferme, résister lui avec une foi ferme en restant attaché au Seigneur. Être prêt à rencontrer Dieu, c'est avoir une foi ferme. Il y en a qui ont tenu 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que tous les mardis qui vont suivre ont prié pour ces fils prodigues? On ne va pas les juger. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire pareil qu'eux? Combien ont rétrogradé? Si on a été fidèle jusqu'à aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce. Si on est debout ce matin, ce n'est pas qu'on a été meilleur qu'eux. Je crois que Dieu nous a soutenus, Dieu nous a fait grâce. Enfin, il y a plusieurs explications. Mais écoutez, c'est une faveur du Seigneur. Nous sommes là. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec les rétrogrades de Toulouse? Est-ce que Dieu veut qu'il soit sur la touche quand Jésus va revenir? Non, c'est pour ça qu'il faut que l'Église soit une maison de prière. Il n'y a pas de programme à avoir, à faire des nouvelles statistiques sur l'avenir de l'Église. Les statistiques, ça ne sert à rien. Parce qu'on en arrive, vous savez à quoi? Là, je sors d'un sujet. Mais c'est cohérent ce que je veux dire, par rapport à ce que je vous dis. Aujourd'hui, on est dans le domaine des statistiques. Et on fait toujours des statistiques. Et vous savez ce que ça a amené à faire? Ça nous a amené, à nous les pasteurs, à baptiser des gens qui n'étaient pas convertis pour que les statistiques gonflent. Vous avez vu les dangers? Et c'est pour ça que je vous ai dit, bon, l'année va recommencer. Je commence ma 14e année ici. Je n'ai pas envie de devenir un fonctionnaire dans le mauvais sens du terme. Moi, ce que je veux, c'est que l'on gagne des âmes. Ce que je veux pas être payé pour être payé. Voilà. Ce que je veux, c'est servir le Seigneur avec vous, ensemble. On gagne des âmes, on édifie l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord? On fait des réunions d'évangélisation. Quelqu'un qui est prêt, il est ferme. Si vous n'êtes pas ferme, il le dit. Si vous ne veillez pas et si vous ne priez pas, vous ne serez pas ferme lorsque Jésus reviendra. Et je termine avec ce point. Il y en a deux en vérité. Mais ce point, je veux quand même qu'on l'aborde. C'est dans le psaume 42 qui détermine vraiment peut-être tout le reste. Dans le psaume 42, David est dans un moment difficile. Il est dans un moment difficile, croyez-moi. Et il fait des choix. Il est ferme. Il se rend compte que sa vie psychique est en train de le dominer. Il se rend compte que son âme est abattue. Et il commence à réagir, d'ailleurs tellement bien que ce psaume est devenu un psaume de la Bible. Donc c'était inspiré par Dieu. Il est là, il est conscient que son âme est en train de l'éloigner de Dieu. Vous savez, parce que nous avons un esprit et une âme. Hein? Psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. » Et il rajoute « du Dieu vivant ». Mes frères et sœurs, j'aurais pu donner un autre titre à cette prédication, « Avoir soif du Dieu vivant pour être prêt ». Vous comprenez? Un chrétien qui est prêt, il a soif de Dieu. C'est pas un désir. Il est déterminé. Parce qu'on va peut-être chanter tout à l'heure, tiens, madame Sinarindi, on pourrait chanter le cantique « J'ai soif de ta présence, s'il vous plaît », pour terminer. Mais franchement, c'est pas une question de dire « Oui, c'est vrai, j'aimerais avoir soif ». Est-ce que vous voulez avoir soif? Est-ce que vous pouvez dire à Dieu « Suscite la soif ». Peut-être que vous n'avez pas soif, peut-être que vous dites « Mais non, mais moi, mon culte personnel, c'est un fardeau ». Eh bien, soyez honnête avec Dieu, de la même manière que vous êtes capable de dire « Ben oui, ça me perturbe pas, le culte personnel ». Eh bien, dites au Seigneur « Suscite la soif ». J'ai lu, moi, dans un bouquin des Hébreux, que lorsque les bébés naissaient et que l'enfant ne suçait pas le sein, il pressait sur le mamelon de la maman du sirop de figue. Et le sucre du sirop, eh bien, activait la succion du bébé. Et il avait soif. Et il prenait le lait. Alléluia. C'est bien? Ben, voyez, Seigneur, suscite la soif. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un cette semaine? Mais Seigneur, redonne-moi soif. J'ai soif de ta présence. Je te prie toujours pour mes bénédictions et pour mes bénédictions et pour que tu me fasses ceci et pour que tu me fasses cela. Mais Seigneur, j'en ai presque honte que ma prière soit ta présence. Quelqu'un qui est prêt, il a soif de la présence de Dieu. Si vous n'avez pas soif de Dieu, soyez sérieux, suppliez-le. Est-ce qu'il va l'entendre cette prière? Est-ce que vous croyez que Dieu va rester indifférent à la prière du misérable? Il est dit qu'il est attentif à la prière du misérable. Bien sûr que quand on a plus soif de Dieu, on est en train de tomber dans la misère. Eh bien, Dieu a pitié du misérable. Suscite la soif, Seigneur. Je fais mon culte une fois par mois, personnel. Ça va pas. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas en train de me convertir en vierge folle? Avec un minimum d'huile? Non. Seigneur, suscite la soif. Je veux chanter ce cantique, mais Seigneur, ça sera une prière des plus profondes que j'ai jamais faite. Je veux retrouver cette communion, ou trouver cette communion avec ce Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Si peut-être vous n'avez pas soif, c'est parce que vous ne réalisez pas vraiment que Dieu, il est vivant. Parce qu'un Dieu vivant, c'est quoi un Dieu vivant? Ben, c'est un Dieu qui parle. C'est pas une idole muette. Quelqu'un disait en sa prière, je suis pas tourné vers des idoles. Tu es un Dieu qui vit. Quelqu'un le disait dans sa prière. Le Dieu vivant, c'est un Dieu qui accompagne. Est-ce que vous croyez que Dieu vous accompagne? Si vous réalisez que Dieu est vivant, vous savez que Dieu vous accompagnera tous les jours de votre vie. C'est un Dieu qui console. Peut-être vous êtes dans le deuil et ça arrive. J'ai soif du Dieu vivant. Il va vous consoler. Quand on se fait son culte personnel, il faut réaliser que le Seigneur, il est là, présent, et qu'il va vous consoler, qu'il va vous diriger. Vous avez peut-être besoin d'une direction. Demandez-la à Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est un Dieu qui écoute, un Dieu vivant, c'est un Dieu qui entend. Un Dieu vivant, c'est un Dieu qui cet après-midi peut guérir un malade. C'est quoi la réunion d'évangélisation? Une réunion de plus? Parce que il faut aller, Monsieur Gau a demandé d'aller à la réunion d'évangélisation, quoi qu'il n'a même pas demandé. Il vous encourage à travailler pour le salut des âmes. Mais c'est quoi un Dieu vivant? C'est un Dieu qui cet après-midi peut convaincre un pécheur de péché. Et sauver une âme. Et dans le ciel, il y aura de la joie. Comment y aura-t-il de la joie dans le ciel si on ne prêche pas l'évangile? Si je suis plus intéressé par l'évangélisation, c'est qu'il y a un problème. Et je vous le dis avec beaucoup de sérieux. Mes frères et sœurs, on devrait se dire, voilà, je veux avoir soif du Dieu vivant. Quand on a soif du Dieu vivant, eh bien, on sait que demain, peut-être on va pouvoir donner une Bible à quelqu'un. C'est pas vrai? Mon âme a soif du Dieu vivant. Et le dernier point que je ne développerai pas, peut-être une autre fois, quelqu'un qui est prêt, il a de l'espérance. Il espère dans le retour du Seigneur. Quelqu'un qui est prêt, il est plein d'espérance. Est-ce que vous êtes plein d'espérance? Quelqu'un qui est prêt, c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Il espère, il sait que les noces de l'agneau, c'est pour bientôt. Alléluia! Vous attendez votre robe de fin lin, vous avez vu le repas? Vous savez qu'il y a une partie du menu qui est écrite dans l'Ancien Testament. Les vins clarifiés. Vous le savez, il y a plein de choses écrites. Oui, les projets de Dieu subsistent de génération en génération. Un chrétien qui est prêt, il est plein d'espérance. On va chanter ce cantique. J'ai soif de ta présence.